gaitasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaitaria. Gauze dakarrera, taldeago zartu ekitena, biztu ekiten duena zarea, era batek gure izarra. Aparatu zatuak, ikasatu tarra, memoria historikoa, ezgazteko naia. Ezinbestekoarekin orteko lotura, zamurtezu naila, zerrepeku nera, jazta handi asko amak, gaiela den murkatzu, atipa roski luta, ikan
camarades, bonsoir, vous êtes sur Radio Canus 102.2, c'est la bande à Spartacus, syndicalisme et lutte de classe. Juste pour d'abord vous annoncer que c'est notre avant-dernière émission pour un dimanche soir, étant donné que Ben l'avait annoncé la semaine dernière, on va maintenant passer le jeudi soir, ce sera de 20h à 21h à partir du 15 février. Donc c'est notre avant-dernier dimanche. La semaine prochaine, on aura un dimanche un peu spécial, étant donné que vous aurez la joie et le plaisir de retrouver Julien, qui était là au tout début de la bande à Spartacus, qui revient donc pour le dernier dimanche. Ce soir, comme d'habitude, pas mal d'informations, pas mal d'actualités donc sur les luttes sociales. On va recevoir aujourd'hui donc Philippe Corcuff qui soutient Roland Veuillet en étant en grève de la faim comme lui cette semaine. On en parlera tout à l'heure. On aura également donc la préparation de la journée d'action, de manifestation, de grève du 8 février dans la fonction publique. Les suicides chez Renault. On va parler également de la Guinée, de Volkswagen, étant donné qu'il y a des nouvelles. On en a parlé régulièrement dans les semaines passées. On va parler de Leclerc à Nancy, plusieurs grèves à Roissy, à Saint-Gobain et ainsi de suite. Voilà, on va commencer donc tout de suite avec Philippe Corcuff qui donc est en grève de la faim depuis mercredi. Il est en grève de la faim au 184 rue du Guesclin, c'est avant le tribunal administratif de Lyon. Il est venu faire cette grève de la faim pour soutenir Roland Veuillet. Roland Veuillet, on en a parlé régulièrement ces dernières semaines. Roland est d'ailleurs venu il y a 2-3 semaines dans notre émission faire une interview pour expliquer les raisons de cette grève de la faim. Donc on va maintenant passer la parole à Philippe qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il a choisi donc également cette action pour soutenir Roland, quelles sont toutes ses raisons.
Oui, bonsoir. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais déjà soutenu Roland lors de sa première grève de la faim en 2004 à Paris. Et je m'étais un peu impliqué dans le soutien à ce moment-là. Donc c'est là que j'avais développé des liens plus personnels. Et il avait arrêté la dernière fois sur une promesse d'ailleurs qui s'est révélée illusoire d'une médiation au 39e jour. Contrairement à la dernière grève de la faim, le ministère de l'Éducation nationale fait la sourde oreille, ne propose aucune négociation, alors qu'elle avait proposé un peu après le 30e jour des négociations la première fois. Et là, on allait dépasser les 39e jours symboliques de la dernière fois sans qu'il y ait aucune négociation. Un mur du silence. Donc, j'ai décidé de de symboliquement de rentrer en grève de la faim ce 39e jour pour une semaine, parce que j'ai des moyens limités, j'ai pas l'énergie ou la résistance de Roland par rapport à ce type d'action, mais il m'a semblé que c'était important de marquer une solidarité, alors que tant du côté des médias dominants que du côté du ministère, la lutte de Roland a peu d'écho pour l'instant, alors que on entre dans une période assez grave du point de vue de la santé, et les grèves de la faim qui durent au-delà de 40 jours sont assez rares finalement.
Ouais, il faut rappeler que aujourd'hui même, donc Roland a son 43e jour de grève de la faim, étant donné qu'il a commencé le 24 décembre 2006. Rappelle-nous peut-être quelques points importants de l'affaire de Roland, que ce soit donc la sanction, que ce soit surtout, je pense, les avis du Conseil supérieur de la fonction publique, ou ces choses-là qui sont quand même déterminantes quand on voit que l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique a été signé par le Premier ministre.
Oui, Roland, à la suite de la grève des aides éducateurs en 2003, a été sanctionné arbitrairement sur une faute qu'il n'a pas commise, et il a été muté disciplinairement de Nîmes à Lyon. On suppose d'ailleurs que c'est lié à des choses antérieures, cette sanction. C'est que il avait alerté dans l'établissement, dans le conseil d'administration dont il était membre en tant que syndicaliste, et à l'extérieur, il avait alerté contre l'introduction d'un partenariat expérimental nouveau qui s'est effectué à Nîmes entre son lycée, le lycée du Haut-Dar, et le MEDEF, sous la forme de ce qui a été appelé plateforme technologique. Il a été un de ceux qui a mis en cause ça, qui était peu publicisé. Et on suppose que c'est aussi parce qu'il a contesté cet élément que, lors de la grève et à la fin de la grève, le proviseur puis le recteur ont essayé de mettre en cause son activité. Et donc il y a eu cette sanction qu'il a toujours refusée, et comme c'est un marathonien,
Je vais juste te couper, Philippe, parce que par rapport, tu disais que ce que Roland a refusé et qui est certainement cause de la sanction qu'il a eue plus tard, c'est les accords entre le lycée et donc le MEDEF. C'est des choses qui, c'est clair, se faisaient à l'époque, étaient un petit peu quelque chose de pilote pour son établissement, mais c'est quelque chose qui est toujours aussi peu publicisé, même si maintenant les liens entre le MEDEF et l'école sont de plus en plus présent, parce qu'on a pu voir donc cette semaine qu'il y a par exemple dans l'Académie de Lyon, notre académie ici, où il y a des stages qui sont organisés entre des chefs d'établissement et le MEDEF. Si on voit la nature de l'opération telles qu'elles sont énoncées en fait dans les papiers, c'est échange entre des chefs d'entreprise, des chefs d'établissement ou des conseillers des structures d'insertion sur des thèmes d'intérêt partenarial. Et si on voit par exemple l'objectif de l'action, et c'est là que ça, c'est quelque chose qui devrait faire hurler bien sûr tous les syndicalistes et toutes les personnes de l'éducation nationale, si on en parlait un petit peu plus, c'est le fait que l'objectif de l'action, c'est quand même d'impliquer les chefs d'établissement, les conseillers des structures d'insertion et les responsables d'entreprise en faveur du rapprochement entre l'école et l'entreprise. Et deuxième chose qui est quand même là encore très très grave, voire plus grave, c'est initier d'éventuels transferts de compétences. Donc on voit que à l'époque, Roland, c'était quelque chose qui se mettait tout à fait juste en place donc en 2003, et que c'est quelque chose qui maintenant, si c'était quelque chose qui était quasiment unique en France sur le lycée où il était à Nîmes, c'est quelque chose qui se fait, qui se font dans toutes les académies.
Oui, il a été précurseur pour la critique de ce type de procédé qui met en cause la logique du service public d'éducation. La sanction a été considérée par le Conseil supérieur de la fonction publique comme devant être relevée. C'est un organisme paritaire qui réunit des représentants de l'administration et des syndicats, mais qui a une fonction que consultative. Au vu du dossier, il a indiqué que la sanction ne tenait pas, mais comme c'est consultatif, le ministre n'en a pas tenu compte. Et donc Roland continue son combat. Je pense que son combat réunit des éléments à la fois qui renvoient à des dimensions individuelles et des dimensions collectives. Il y a une première dimension qui est le refus, donc avec ses accords MEDEF Éducation nationale, le refus de l'introduction du néolibéralisme dans les services publics. Ça, c'est un premier élément collectif qui n'est pas suffisamment souvent mis en évidence par rapport à la lutte de Roland. Ensuite, il y a une mise en cause du droit syndical. On a encore là, il était tout à fait dans la logique du droit de grève et on a essayé de mettre en cause l'exercice du droit syndical, c'est l'exercice d'un droit collectif. Mais troisième élément aussi...
Je vais peut-être insister sur justement la remise en cause du droit de grève, parce que si les auditeurs sont pas au courant, je pense que c'est quand même hyper important de le rappeler, c'est que la sanction dont t'es victime, Roland, c'est par rapport à la grève, donc tu l'as dit, des éducateurs et surtout des maîtres d'internat et surveillants d'externat en 2003, en janvier-février 2003, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc en fait, Roland, qui était dans un établissement où il y avait un internat, les maîtres d'internat s'étaient déclarés grévistes. Le proviseur adjoint lui a demandé par un ordre... par téléphone, lui a demandé de remplacer ses surveillants grévistes, ses maîtres d'internat grévistes, par des élèves, donc des maîtres au pair. Roland a bien entendu refusé, tout d'abord parce qu'on ne remplace pas des grévistes, et surtout il a refusé en demandant un ordre écrit de la part du proviseur adjoint. Cet ordre écrit, il l'a jamais eu. Il faut quand même savoir ceci, il l'a jamais eu, et que malgré donc avoir jamais eu cet ordre écrit, on lui a reproché donc de ne pas avoir appliqué ce qu'on lui avait demandé, et c'est pour ça qu'il a eu cette sanction.
Et toujours dans le cadre de la remise en cause du droit syndical, on a entendu dire que donc Roland avait consulté donc son dossier à l'administration et il aurait trouvé je ne sais pas combien de dossiers à caractère syndical le concernant, ce qui est strictement illégal.
Oui, donc c'est un cas typique de discrimination syndicale. Je pense aussi que ce qui est sans doute important aussi, c'est une résistance individuelle contre... pour la défense de sa dignité personnelle, contre le refus d'être catégorisé en tant qu'individu qui a fait une faute alors qu'il n'a pas fait de faute. Il y a une résistance de la dignité individuelle qui est très importante, qui perturbe un peu aujourd'hui les organisations et les mouvements sociaux, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire. On a l'habitude de défendre les droits collectifs et les combats collectifs, et on est insuffisamment attentif au fait que dans le mouvement altermondialiste et dans les mouvements sociaux aujourd'hui, il y a de plus en plus de façons plus individuelles de résister à des dénis de reconnaissance, à des choses qui mettent en cause sa dignité personnelle, et que la dimension de l'autonomie, de la dignité de la personne est très importante aussi pour les combats collectifs. Et le combat de Roland est justement à la croisée du combat individuel pour la reconnaissance de sa dignité et d'un combat collectif contre le néolibéralisme et pour la défense du droit syndical. Et je pense que c'est une faiblesse, et sans doute ça explique le soutien pour l'instant modéré de toutes les organisations syndicales, politiques, associatives, de gauche dans ce combat. C'est qu'elles ont peu intégré jusqu'à présent cette dimension libertaire de la défense de l'individualité contre l'arbitraire à la fois de l'administration, de la bureaucratie, et contre le pouvoir du marché. D'ailleurs, les organisations habituellement qui ont maintenant pris l'habitude de lutter contre le néolibéralisme et contre le marché oublient qu'en lien souvent d'ailleurs avec le marché, mais parfois de manière séparée, la bureaucratie impose aussi un arbitraire, une domination, une oppression, et qu'il ne faut pas se contenter de défendre les services publics contre le néolibéralisme et la marchandisation, mais il faut sans doute défendre d'autres services publics, et pas ceux qui justement écrasent l'individualité à la fois des salariés qui y travaillent, mais aussi des usagers.
Ouais, je pense que nos auditeurs ont aussi l'habitude d'un discours un petit peu équivalent, étant donné que on en a parlé par exemple quand c'était quand on a parlé de la poste, quand on parle de l'éducation, quand on parle d'EDF, on veut bien rappeler, nous on rappelle tout le temps, et on aimerait que ce soit rappelé aussi plus souvent, peut-être aussi par les organisations syndicales, quand il y a eu par exemple des grèves à Marseille au niveau de la RTM, c'est que les services publics sont quand même au départ quelque chose qui doivent donc servir à tout le monde et à l'ensemble de la population, et particulièrement aux classes populaires qui ont le plus de difficultés. Donc il est important de montrer à chaque fois que ces luttes pour un service public, c'était par exemple le cas à la RTM, que ça a été montré, mais peut-être à notre avis, ça n'avait pas été suffisamment, de montrer que le risque qu'il y avait derrière, ça allait être une augmentation des tarifs, une augmentation donc de tout ce contrôle qu'il peut y avoir derrière. C'est exactement ce qui s'est passé à Marseille, avec des augmentations des prix du billet qui sont passés de 1,50 à 2,10 €. Des choses comme ceci qui font que derrière les services publics, il y a quelque chose qui est pour le bien de tous.
Et puis je voudrais ajouter aussi que, par rapport à ma propre implication, c'est que je suis universitaire, donc je suis membre de l'éducation nationale, je suis maître de conférence à Sciences Po à Lyon, Et je pense que c'est important qu'une catégorie qui est plus privilégiée dans l'éducation nationale comme moi se sente solidaire de ceux qui sont le plus soumis à la répression, qui sont le moins protégés. Et c'est quelque chose d'inhabituel chez les universitaires, mais je pense que c'est un élément important. C'est-à-dire que quand on combat, il faut combattre aussi dans sa propre institution. Il faut combattre ailleurs, à l'extérieur aussi, sa propre institution. Je me rappelle, en octobre 2002, dans le cadre d'une liaison particulière entre Attaque Rhône et Attaque Tunisie, j'étais invité comme universitaire à un colloque de sociologie en Tunisie, et j'avais commencé une grève de la faim avec un altermondialiste tunisien qui était réprimé. Et puis j'ai été, au bout de 3 jours, arrêté, expulsé par la police tunisienne. Et à l'époque, quand j'étais revenu en France, on m'a dit que je cherchais des formes de solidarité exotique, extérieure, etc., et qu'il fallait mieux que je regarde aussi dans mon institution. Ben, je pense qu'il y avait quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut savoir avoir une solidarité vis-à-vis de lutte internationale et ça extérieure. Mais là où on travaille, là où on vit, il y a des formes d'arbitraire, il y a des formes d'oppression, il y a des choses inacceptables, il y a des choses injustes, et donc il faut aussi pouvoir avoir une solidarité, particulièrement quand on est dans une situation, disons, plus protégée, comme le statut d'universitaire.
Ouais, d'ailleurs, ça va très bien aussi, ça illustre bien le cas de Roland, parce que on rappelle donc la sanction qu'il avait eue, c'était donc la lutte des maîtres d'internat, surveillants d'externat, qui était donc le statut de surveillant à l'époque en 2003, qui était un statut qui était relativement, on va dire, privilégié par rapport à ce qu'on a maintenant, étant donné que c'était un statut qui recrutait des personnels sur des critères sociaux, qui était en gros d'aider des jeunes des classes populaires à pouvoir poursuivre leurs études. C'était un statut où le plein temps était de 28 heures, qui permettait donc de poursuivre correctement ses études avec un salaire tout à fait correct. Donc Roland avait soutenu lui très fortement d'ailleurs cette grève à cette époque, étant donné qu'il était lui-même en grève. D'ailleurs il était en grève, mais le jour justement où il était sanctionné, c'était ce qui était noté justement par le commissaire du gouvernement à la cour d'appel administrative, c'est que Roland, malgré tout, en étant en grève, il avait fait preuve de professionnalisme, étant donné qu'il était présent sur son établissement pour assurer aussi la sécurité des élèves, et que on voit que la lutte de l'époque était une lutte juste, le combat de Roland était juste, parce qu'on voit maintenant que le statut de maître d'internat, surveillant d'externat, a quasiment disparu totalement. Il reste peut-être quelques personnes en France qui sont sous ce statut-là, mais à la place, si ce statut a disparu, c'est que les personnes qui font ce travail-là n'ont pas disparu. Par contre, leurs contrats ont été modifiés. On a eu les assistants d'éducation, on a maintenant donc des EVS, donc qui sont embauchés soit en CAV, soit en CAE, et que tous ces statuts-là sont des statuts qui sont ultra précaires et qui sont ultra défavorables si on compare par exemple au statut de maître d'internat et surveillant d'externat. Étant donné que maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que le temps plein donc d'un maître d'internat et d'un surveillant d'externat était de 28 heures, maintenant le mi-temps d'un EVS est de 26 heures et il touche 590 euros, alors qu'à l'époque, c'était 28 heures qui étaient payées à peu près 950 ou 1000 euros. Donc on voit qu'il y avait quelque chose qui, justement, la lutte de Roland, c'était justement de montrer que lui, en tant que CPE, il avait, c'est-à-dire qu'il avait un statut qui était plus privilégié, étant donné qu'il était titulaire, qu'il était enseignant, il avait soutenu, comme d'autres l'ont fait à l'époque et qui avait, c'était tout à fait justifié, avait soutenu cette lutte-là qui était non seulement pour le respect et puis aussi la dignité des personnes donc qui faisaient ce travail-là, parce que quand on voit des personnes qui travaillent pour 590 euros pour 26 heures, quand on voit qu'ils ont des trajets à faire ou des choses comme ceci, on voit que c'est un salaire de misère. Et également, ce qui est aussi intéressant dans le combat qui avait été mené à cette époque, c'était par rapport à ce service public d'éducation, à cette qualité de service public, parce que les personnels qui donc étaient maîtres d'internat, surveillants d'externat, étaient des personnes qui restaient pendant 2, 3, 4 ans, le temps qu'ils aient fini justement leurs études et qui après gagnent la vie professionnelle. C'est des personnes qui restaient et qui étaient souvent impliquées dans l'établissement parce qu'ils étaient là plusieurs années. Alors que maintenant, on voit, c'est justement dans l'appel justement de l'intersyndicale d'éducation de cette semaine pour le 8 février, on voit qu'il y a un turnover ultra important de ces EVS, parce que les personnels ont un tel statut et un tel salaire, que très souvent les personnes jettent l'éponge ou encore sont sanctionnées. C'est par exemple le cas de Didier.
Ouais, et puis aussi un autre point, c'est que ça renforce aussi donc la hiérarchie dans les établissements, parce que donc avec ce type de contrat, ça transforme aussi donc les principaux comme des véritables des employeurs, tout simplement, avec pouvoir de recrutement, et les CPE, on va dire, pratiquement un directeur des ressources humaines, ce qui change considérablement les rapports sociaux au sein des établissements. Et oui, et puis évidemment avec toute la précarité qui incombe donc à ces contrats, et avec des cas complètement absurdes, notamment dans le nord de la France, où quand même 200 personnes embauchées sous ce type de contrat se sont retrouvées sur le carreau, puisque donc il y avait un conflit entre le ministre Jean-Louis Borloo et le président du Conseil général du Nord, je ne sais plus son nom, et donc ces personnes se sont retrouvées donc sans emploi alors qu'ils avaient signé un contrat de travail, et donc on voit que ces contrats ne sont pas du tout au point et mettent les gens dans une misère la plus totale.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Philippe, sur ça, sur la lutte de Roland.
Je pense qu'il est important, maintenant on est au 43e jour de grève de la faim, il a perdu 17 kilos, c'est-à-dire à peu près 20% de son poids initial, donc ça veut dire qu'il rentre dans une zone extrêmement dangereuse pour sa santé, et que là, la mobilisation est extrêmement importante, encore plus importante, parce que là, on rentre dans une situation extrêmement dangereuse pour sa santé. Il est très déterminé, il a beaucoup de ressources, mais en fait, c'est un homme qui a plus de ressources que d'autres d'un point de vue physique, mais qui en même temps a des limites comme tout le monde. Il est maintenant affaibli, et donc il est important que on se rende compte de l'importance de cette mobilisation.
Et justement, pour poursuivre cette mobilisation, il y a donc juste informé qu'il y a des actions qui se sont faites à Lyon cette semaine, donc mercredi, hier également. Mais il y en a également ailleurs en France, étant donné qu'il y en a eu à Poitiers, il y en a eu à Marseille, avec 30 personnes qui sont couchées devant l'inspection d'académique. Il y en a également dans le Gard, voilà. Et pour dire aussi que toutes les personnes, qu'ils soient dans l'éducation nationale ou non, donc Philippe l'a dit, c'est pas un combat qui reste cloisonné à l'éducation nationale, étant donné que c'est un combat pour le droit de grève, pour la dignité humaine, toutes ces choses-là. Donc toutes les personnes qui le souhaitent peuvent signer la pétition donc de soutien à Roland, qui est signable en ligne sur le site Roland Veuillet, où va-t-on ? Vous tapez Roland Veuillet dans Google et vous tombez dessus. Et également, pour tous ceux qui sont présents à Lyon, le comité de soutien de Roland Veuillet appelle à poursuivre la manif de jeudi, c'est-à-dire jeudi 8 février. La manif partira à 11h de la place Jean Massé pour rejoindre à 12h rejoindre la préfecture. À la suite de cette manif, donc le comité de soutien appelle toutes les personnes à poursuivre ensuite la manifestation pour rejoindre le camion de Roland Veuillet qui se trouve au 184 rue du Guesclin. Pas d'autres interventions ? Donc on va passer à un petit morceau de musique. Donc c'est Magie de chère fille et le morceau s'appelle En Enfer.
Avec les doigts qu'on mange, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la peau des anges? On voulait des galettes, mais pas les rois. Les fèves, on les laisse à tous ceux qui croient qu'on se partage le gâteau. Puis on dit on est trop, et c'est depuis qu'on a sous le chapeau comme un orage. On nous disait, n'attendez pas qu'on vous dévoile tous nos secrets. Et quant au chemin des étoiles, est-ce qu'on attend le premier jour de mai? Quand c'est la rue qui se met à chanter, je suis en colère à ne plus savoir où s'en va la vie. On se demande quand elle se finit ou le contraire. On était un enfer. on était un enfer. Il y aurait plus à s'en faire, là-bas comme ici. Nous on voit jamais rien. Si on chante, ça ira mieux demain. Ça ira pour qui la neige tombe. Et c'est les enfants qui jouent. Et c'est toujours les plus grands qui sont sous l'abri. Et si on était un enfer, qu'est-ce qu'on aurait à faire au paradis? Et si on était un enfer, il n'y aurait plus à s'en faire, là-bas comme ici. On nous disait, c'est pas avec les doigts qu'on mange. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la peau des anges? On voulait des galettes, mais pas les rois. Les fèves, on les laisse à tous ceux qui y croient. Rajoutons-y aussi un riff à la Dostaki ou un pas de danse qui n'étouffe pas le cri de ceux qui rêvent, de ceux qui rêvent, oh, de ceux qui rêvent, oh, de ceux qui rêvent, de ceux qui rêvent, de ceux qui rêvent.
Vous êtes toujours sur le 102.2 de Radio Canu, donc votre heure d'information syndicale hebdomadaire qui se poursuit, donc avec cette journée de mobilisation donc du 8 février, journée de mobilisation de l'ensemble de la fonction publique qui verra des grèves et des manifestations de tous les fonctionnaires français en France. Donc on a vu avec à Lyon, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, une manifestation et également donc les raisons donc de ces manifestations et de ces grèves sont principalement autour du pouvoir d'achat, on va dire, pour l'ensemble des fonctionnaires. Du pouvoir d'achat, donc vous avez pu le voir, on s'en était fait l'écho ici, c'est par exemple au niveau de l'éducation nationale, les enseignants qui ont perdu 20% de pouvoir d'achat depuis 1981. Et on s'est surtout fait l'écho aussi de ces fonctionnaires qui vivent avec, on l'a dit par exemple tout à l'heure, avec ces contrats précaires, ces EES, du grand nombre de personnes qui sont embauchées par l'État français avec des salaires bien inférieurs au SMIC. C'est dans l'éducation nationale, mais c'est également dans d'autres services publics. Ces raisons sont bien sûr tout à fait légitimes. Elles rejoignent également toutes les grèves dont on a pu parler par exemple la semaine dernière ou il y a 15 jours pour les salaires, dont on parlera aussi tout à l'heure par exemple à Roissy ou à Saint-Gobain, des revendications qui sont menées par l'ensemble du mouvement social et du mouvement ouvrier actuellement par rapport à cette baisse de pouvoir d'achat, ces salaires qui n'augmentent pas à la différence donc du coût de la vie. Donc voilà une des raisons de ces mobilisations. D'autres raisons, elles se situent aussi dans l'éducation nationale, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure par exemple autour de la précarité, autour des décrets de 50, des décrets qui visent à réformer en gros les statuts de professeurs pour ajouter certaines choses, faire différemment. Ces décrets qui sont rejetés par l'ensemble des organisations syndicales et qui sont combattus parce que très clairement, en fait, ça va être moi je compare ça à ce qui s'est passé par exemple à la Poste en 93. Nos camarades de la CNTPTT nous en ont parlé ici régulièrement, c'est-à-dire c'était une première attaque contre des statues qu'on va qualifier d'archaïques. La défense qu'on a de ces statues, c'est pas justement pour garder des statues qui soient plus anciens ou quelque chose qui sera archaïque. Nous, la défense qu'on veut en faire, c'est parce que ça permet d'avoir des conditions de travail qui sont encore convenables, d'avoir aussi un vrai service public d'éducation de qualité qui permette donc aux professeurs de s'investir réellement dans la réussite de leurs élèves, qui permettent de s'investir réellement. Donc nous, c'est cette défense-là qu'on veut faire. C'est d'autant plus important qu'on l'a vu, par exemple, nos camarades justement de la CNTPTT nous l'ont dit, c'est que eux, ils se sont battus, ils ont été pas forcément soutenus par par exemple actuellement dans l'éducation nationale, pas tous les syndicats étaient sur la même longueur d'onde. Et maintenant, on sait que dans la Poste, il y a actuellement plus d'un tiers de personnel qui sont contractuels de droit privé, donc dans ce qui normalement est un service public. Voilà. Donc il y a cette journée de mobilisation, en rappelant que cette journée de mobilisation, elle s'inscrit aussi dans un mouvement qui est un peu plus profond dans l'éducation nationale, avec des mobilisations qui ont eu lieu sur le département de la Seine-Saint-Denis et sur toute la région parisienne, avec une grève qui a vu sur exactement les mêmes bases, qui avait été menée le 25 janvier, une grève qui avait été réussie, qui essayait de discuter des reconductions, et finalement il y a aussi donc cet isolement qui ne leur a pas permis de pouvoir amplifier pour arriver à un mouvement plus fort, un mouvement de masse qui amènerait un certain rapport de force pour pouvoir vraiment faire reculer donc le gouvernement. C'est pour ça que nous, on invite donc toutes les personnes qui le peuvent et toutes les fonctionnaires à être en grève donc jeudi. On indique qu'il y a une assemblée générale des grévistes de l'éducation nationale qui aura lieu à 14h30 à la Bourse du Travail, pour aussi justement échanger collectivement sur qu'est-ce qui arrive sur la tête de chacun, pour aussi peut-être discuter de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour la suite, pour essayer donc de créer un vrai rapport de force.
À l'appel de qui,
l'AG? L'AG est à l'appel donc de Sud Éducation, de la CNT Éducation et de la CGT Éducation.
Ok, autre sujet, donc on a entendu parler pas mal dans l'actualité cette semaine, c'est donc sur la santé au travail, donc maintenant cette loi qui interdit donc de fumer dans les endroits publics et notamment sur les lieux de travail, dans les entreprises et les administrations. Et donc donc on sait très bien que le tabac, c'est dangereux donc pour la santé, aussi bien pour ceux qui fument que ceux qui le subissent passivement. Et en fait, partant de ce constat, il y a un décret qui date du 16 novembre 2006, en fait, qui dit que les inspecteurs et contrôleurs du travail auront compétence pour réprimer les infractions aux dispositions donc de ce nouveau décret, et en particulier celles qui punissent d'une contravention de troisième classe, c'est-à-dire 68 €, les personnes en fait qui dans l'entreprise ne respecteraient pas cette interdiction de fumer. En gros, il s'agit donc par ce texte de santé publique de réprimer en particulier les salariés qui dans les entreprises braveraient l'interdiction. Et donc voilà, il est dorénavant, en fait, il est demandé aux agents de l'inspection du travail de contrôler des comportements, donc des mauvaises conduites, et l'employeur s'aperçoit que là, il n'est plus considéré comme le premier responsable de l'obligation de sécurité. Donc il faut bien comprendre que c'est quand même une première en matière de droit du travail. Alors que la jurisprudence, elle avait y compris, donc en matière de risque tabagique, visé l'obligation de sécurité du chef d'entreprise de lutter contre les risques professionnels dans l'entreprise. Et le salarié, il était seulement responsable, en fait, au titre de ses obligations qui sont nées du contrat de travail. Donc, et là, par ce décret de santé publique, un salarié est considéré comme seul responsable pénalement, sans que l'employeur, puisse être rendu co-responsable. Donc, le fait de fumer, donc c'est une conduite, il constitue maintenant, en fait, une infraction en matière de droit du travail, indépendamment de ce que l'employeur aura fait ou non en la matière. Alors c'est une petite révolution, puisque là le comportement, on va dire, défaillant de l'individu, donc du salarié, il vient contrebalancer en fait et atténuer et même carrément se substituer à la responsabilité, l'obligation de sécurité du chef d'entreprise. Alors là, dans cette logique là, le code du travail ne doit plus être un dispositif de protection des salariés, mais en fait un outil apte à économiquement traiter le coût induit par tel ou tel risque. Là en l'occurrence c'est le tabac, et ainsi donc la circulaire ministérielle emploi travail qui concerne ce décret, elle insiste carrément dans son argumentaire politique sur le fait que le fumeur est quelqu'un qui coûte cher. Donc c'est en plus une enquête d'abord qui avait été menée dans les pays anglo-saxons. Et donc là je les cite, en matière de coûts économiques et sociaux, des études menées dans les pays anglo-saxons estiment qu'un salarié fumeur génère des frais supplémentaires de l'ordre de 2500 à 4000 euros par an, dû notamment à une dégradation plus rapide du matériel, une augmentation des accidents du travail. Par ailleurs, un salarié non fumeur est moins souvent en arrêt maladie qu'un fumeur, avec un différentiel de l'ordre de 23%, c'est ce qu'on dit donc dans cette enquête. Plus grave, cette même circulaire, en fait, elle indique que le fumeur est plus apte à développer un cancer professionnel. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Est-ce qu'ils essaient pas de nous expliquer que demain, un travailleur exposé à un produit donc CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène et reprotoxique, donc dans le cadre de son activité salariale, mais qui aurait été verbalisé un peu avant, par exemple pour une infraction à l'interdiction de fumer, et ben quelque part on espère nous expliquer qu'il serait peut-être responsable de son cancer, et donc il serait certainement en difficulté plus tard pour faire reconnaître sa maladie professionnelle ou carrément son niveau d'indemnisation. Alors pour certains types de cancers qui sont liés à l'amiante, déjà à l'époque on se souvient que les lobbies industriels nous disaient que non mais en fait c'était certainement dû c'était déjà certainement dû au tabac ou que ça accentuait les choses, etc. Alors du point de vue de l'inspection du travail, ce texte il est également intolérable, inacceptable, puisqu'il place les agents de contrôle en fait dans la position de sanctionner le salarié défaillant, faute de quoi certains pourraient avoir peut-être la bonne idée de rendre l'État responsable et l'agent individuellement du risque auquel il est exposé du fait de son inaction, l'inspecteur ou le contrôleur responsable, donc avec l'employeur, de l'atteinte à la santé des salariés de l'entreprise devient ainsi aussi un principe. Donc voilà, l'inspection on voit qu'elle est détournée de sa mission de protection des salariés qui est fondée sur le contrôle du respect par l'employeur de ses obligations, en particulier de sécurité. Sa mission, sa fonction, n'est pas de traiter des conduites des salariés en punissant ces derniers, mais sa fonction, sa mission de fond, est de traiter des conditions de travail qui se dégradent et qui poussent aussi de plus en plus les salariés à prendre des substituts, à fumer beaucoup, pour tenir un peu et puis garder leur emploi et puis surtout supporter ces conditions de travail qui se détériore de plus en plus. Donc voilà, l'inspection du travail, c'est une autorité donc au service de l'ordre public social, et non en fait un corps de contrôle du service de l'ordre social, où tout individu, qu'il soit employeur ou salarié, serait donc sur le même pied d'égalité dans l'entreprise. On sait très bien qu'il n'en est rien. Et si on considère donc que le droit du travail est tout à la fois en fait la reconnaissance de l'exploitation de l'homme par l'homme et un moyen de la contrecarrer, et qu'ainsi cette exploitation s'exerce dans un cadre où l'inégalité économique de fait n'est pas ou le moins possible d'incidence sur la santé des travailleurs, alors on considérera que seul employeur est débiteur de l'obligation de sécurité, ainsi la santé du travail ne pourra que participer à la santé publique en général. Et si on considère le contraire, c'est-à-dire que la sécurité et la santé reposent avant tout sur le bon comportement du salarié dans l'entreprise, et c'est considéré que la santé au travail n'est qu'une question de gestion, et ce faisant qu'elle doit participer à la réduction des déficits. Donc là c'était issu tout ça donc d'un tract de la CGT SETE, donc des inspecteurs du travail notamment, qui remettent complètement en cause donc ce test, parce que ça change quand même leur fonction première. Et donc pour l'instant il n'y a pas d'appel à la grève, mais en fait elle appelle à prendre contact avec tous les syndicats pour défendre en fait les principes d'action du service public de l'inspection du travail. Et c'est vrai que on nous a pas parlé comme ça, mais c'est quand même une petite même une grande révolution en matière du droit du travail.
Oui, je dois noter que nos camarades de Sud de Travail nous ont alertés sur cette question, puisqu'on vient de recevoir dans les directions départementales du Travail et de l'Emploi les carnets à souche pour verbaliser les salariés déjà. Et donc c'est quand même, il faut marquer là-dessus, c'est la première fois qu'on demande aux contrôleurs et aux inspecteurs du travail de verbaliser des salariés. Et c'est vrai que c'est une forme de révolution dans le métier même de contrôleur et d'inspecteur du travail, et qu'il faut essayer de publiciser ça, parce que c'est évidemment inacceptable.
Ouais, d'autant plus inacceptable qu'on en a parlé régulièrement suite par exemple à la mort de deux inspecteurs du travail, de deux inspectrices du travail, il y a maintenant 2 ans, qu'il y avait les inspecteurs du travail qui régulièrement ont manifesté et ont fait grève pour dénoncer aussi donc leur manque d'effectifs, et également aussi le changement qu'on voulait avoir au niveau des orientations, au niveau de leur travail, où ils s'occupent bien sûr de l'hygiène et de la sécurité, mais ils s'occupent également justement du respect du droit du travail, et qu'il y a différentes choses qui on les pousse de plus en plus à se tourner vers l'hygiène et la sécurité et ces choses-là, et de moins en moins à vérifier que le droit du travail est respecté, que ce soit en matière de contrat, que ce soit en matière d'heures faites, que ce soit des différentes choses. Donc on voit que on rajoute quelque chose à des personnes qui avaient déjà demandé donc à être plus nombreux pour pouvoir faire leur mission première, qui pour eux est leur mission première, c'est-à-dire aussi bien donc l'hygiène et la sécurité, à veiller qu'elles soient respectées, que bien entendu le droit du travail de chaque salarié. Et sinon, donc, pour continuer dans les conditions de travail, étant donné qu'on parlait donc de conditions de travail, de différentes choses, je sais pas, peut-être que vous en avez entendu parler cette semaine, il y a eu une manifestation dans un lieu qui très souvent ne voit pas une manifestation, c'est le technocentre Renault. C'est Renault présente ça comme une ville de 12 000 habitants. C'est un lieu où il y a 4500 ingénieurs et cadres, il y a 4500 techniciens, 2500 salariés extérieurs. Ça se trouve dans les Yvelines, et donc mardi matin, il y a plus de 500 salariés qui ont fait une marche donc sur ce technocentre, donc entre deux lieux qui sont pas anodins. C'est deux lieux, le premier lieu c'est en dessous d'un bâtiment, et le deuxième lieu c'est comme un lac en gros. Et en fait ces deux lieux sont des lieux dans lesquels il y a eu deux suicides dernièrement, donc dans les six derniers mois, des suicides. Renault remet en cause le fait que ça pourrait être les conditions de travail qui pourraient être responsables de ça. Malgré tout, la CGT et Sud, donc qui sont implantés là-bas dans cette usine, dénoncent un plan de réduction de coûts et d'augmentation de rentabilité qui vise 6% de marge opérationnelle et 800 000 véhicules supplémentaires vendus pour 2009. Et ils visent également, la CGT dénonce et Sud dénonce très fortement, un nouveau système de notation qui est très stressant et dévalorisant, qui peut conduire donc à des extrémités. Par exemple, il faut savoir que le Hervé, la première personne qui s'est suicidée, venait de passer un entretien d'évaluation qui s'était très très mal passé. Et quant à la deuxième victime, il faut savoir qu'elle devait être envoyée contre son gré en mission de plusieurs mois au Brésil, et qu'il avait eu le matin même du drame un entretien houleux avec sa hiérarchie. Donc on voit que les conditions de travail sont difficiles pour tous, partout, dans toutes les entreprises, et que ça peut pousser donc à des choses catastrophiques comme celle-ci, c'est-à-dire au suicide de deux salariés. Donc on va passer à un petit morceau de musique, donc c'est La Souris Déglinguée, et ça s'appelle Aujourd'hui et Demain. We'll be right back. On poursuit donc la bande à Spartacus, donc notre dernière partie, et on va faire une petite page internationale, donc avec un retour et une plutôt bonne nouvelle, c'est Volkswagen en Belgique.
Ouais, la parlé. Suite du feuilleton là, donc ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. On avait déjà parlé donc à la fin du mois de décembre avec cette énorme grève donc dans l'usine Volkswagen de Forest, donc c'est à Bruxelles en Belgique, et les travailleurs finalement avaient repris le travail, donc c'était le 8 janvier. Après une grève et quand même une occupation d'usine qui avait quand même démarré avant la fin de l'année, elle avait duré comme 7 semaines. Donc il y avait un accord qui avait été conclu donc entre la direction de Volkswagen et les syndicats pour arrêter la grève, et donc cet accord prévoyait une réduction du volume de production à l'usine de Forest, et au lieu des donc 200 000 voitures produites actuellement, moins de 60 000, donc 12 500 Golf et 46 000 Polo seraient produites à Bruxelles. Avec les nouveaux volumes de production, seuls 1 500 emplois resterait en principe sur le site, sur les 5400 existants à l'époque. Donc 2000 salariés avaient déjà accepté de quitter leur travail à la fin de la grève en échange de primes de départ. En plus, ça allait avoir des répercussions énormes à l'échelle de l'agglomération de Bruxelles, puisque avec les sous-traitants, ça correspondait à plus de 8000 pertes d'emplois. D'ailleurs, la population s'était montrée très solidaire, puisqu'il y avait quand même plus de 20 000 personnes qui avaient défilé dans la rue, donc aux côtés des travailleurs de Volkswagen. Et la grève s'était arrêtée. Il faut dire que tous les syndicats avaient tout fait pour saboter le mouvement, notamment même le syndicat allemand IG Metall, puisqu'ils avaient fait en sorte qu'il n'y ait aucune grève qui se développe partout en Europe en soutien avec les travailleurs de Volkswagen. Et là, les travailleurs, ils ont décidé de débrayer donc au terme d'un conseil d'entreprise qui s'était tenu donc c'était mercredi soir, et qui s'est soldé donc par certaines revendications. C'était de confirmer par écrit les promesses qui avaient été faites verbalement au sujet de l'avenir de l'usine. Jusque-là, la direction de Volkswagen Forest avait dit qu'il serait possible, en fait, de fabriquer un nouveau modèle, l'Audi A1, donc dans cette usine, mais aucun accord défini n'avait été conclu. Donc, ce qui veut dire, en fait, que l'avenir de l'usine resterait incertain. Alors que les travailleurs craignent que les discours qui concernent la production d'un nouveau modèle ne soient une fois de plus, en fait, que des paroles en l'air, de la part de la direction et aussi de la part des syndicats qui ont les mêmes promesses que le patronat. La grève, elle s'est poursuivie jeudi et vendredi. Les salariés, ils ont bloqué l'entrée de l'usine, pour empêcher l'accès aux briseurs de grève, et aussi pour empêcher que le matériel quitte l'usine. La direction, elle a officiellement déclaré que l'usine était fermée pour cause de chômage technique. Et le directeur de l'usine, il nous explique qu'il a à nouveau avancé la perspective, en fait, de la fermeture totale de l'usine, en déclarant sa crainte que la grève ne fasse envoler les chances de survie de l'usine. Et là, il y a le ministre belge de l'Emploi, donc, qui a fait connaître son intention d'intervenir dans le conflit, et ils vont désigner, en fait, un conciliateur social. Et donc le personnel de l'usine lui craint à présent que le discours et les promesses faites au sujet d'une éventuelle production d'autres modèles n'aient eu pour but que d'étouffer la grève, l'occupation, et en fait de briser, on va dire, toute tentative de résistance du personnel. Donc pour l'instant, l'usine, elle est toujours occupée, et on vous tiendra au courant de la suite des événements, quoi.
Voilà, et on vous tient au courant de ce dont on s'est fait l'écho régulièrement dans cette émission, c'est la grève générale illimitée qui a eu lieu en Guinée, et donc plutôt une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle, avec donc cette victoire de la mobilisation des syndicats. On pense à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, donc la plus grosse confédération qui s'est mise donc en mouvement, avec également des associations, des partis politiques, et donc cet appel à la grève illimitée qui a paralysé tous les secteurs de l'économie. Il faut savoir qu'elle a mené donc à un accord qui était signé avec le gouvernement, dans lequel il y a la libération donc de toutes les personnes qui ont été jetées en prison pour fait de grève, où il y a les salaires de janvier dans le secteur public qui soient payés, que l'action judiciaire contre les personnes libérées, un homme d'affaires et un ex-ministre accusé de corruption et abusivement blanchi par la justice, donc soit procédé au relèvement des pensions de la retraite. Également, ils ont obtenu donc les réductions du prix du riz, du carburant à la pompe et l'arrêt immédiat des exportations de denrées alimentaires et des produits halieutiques et forestiers jusqu'en décembre 2007. Il faut savoir qu'ils ont obtenu ça. Ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont pas obtenu pour rien. Ils l'ont obtenu au prix du sang. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même 59 personnes qui ont été butées par le gouvernement, par la dictature guinéenne. Il y a eu un article qui était très intéressant. C'était dans l'Humanité, où on a vu donc la dirigeante donc emblématique de la CNT, donc Guinée, qui a parlé justement de la suite de ce mouvement et qui a parlé aussi de ses ambitions ou de ses non-ambitions gouvernementales, qui est quelque chose que pour nous on va le relayer parce que c'est un point fort justement. Donc elle a dit par exemple par rapport au mouvement que pour l'instant la grève n'était pas complètement levée, c'est que c'était simplement elle était simplement on va dire suspendue pour permettre aux travailleurs de souffler. Et parce qu'elle dit il faut qu'on vérifie malgré tout que les acquis qu'on a gagnés par le sang soient réellement appliqués, parce qu'on le sait, on le verra aussi après dans d'autres boîtes par exemple en France, que après les accords ne sont pas toujours appliqués. Et après donc là c'est là que ça m'a particulièrement intéressé, où elle a dit que en gros elle ne souhaitait pas anticiper donc sur la suite de la lutte, mais que elle en tant que secrétaire générale donc de la Confédération nationale des travailleurs guinéens, elle n'avait aucune ambition politique, qu'elle préférait rester à l'écart de la gouvernementale. Et elle dit qu'avec plusieurs de ses camarades, son objectif et leur objectif, c'est le bien-être des populations, de lutter pour leur pouvoir d'achat, pour la qualité de l'éducation de leurs enfants. Et elle dit là où nous sommes en tant que syndicalistes, notre rôle de vigilance nous paraît bien plus important. Et elle note qu'ils ont l'expérience malheureuse de certains de leurs éléments qui ont été récupérés par l'action gouvernementale, que le pouvoir a toujours su diluer l'intervention des syndicalistes et les conduire vers des terrains qui les éloignaient des réalités de la lutte sociale. Donc voilà, c'est une position qui est aussi intéressante, qui justement dans le contexte un petit peu compliqué de la Guinée, c'est une position qui nous tient à cœur, c'est une position qui reflète aussi exactement un petit peu les choses qu'on a parlé l'année dernière pour les 100 ans de la Charte d'Amiens. On voit que c'est sur ces bases-là que nous on souhaiterait développer aussi ce syndicalisme. Voilà.
Ça n'empêche pas non plus un projet de société derrière. Et peut-être préciser aussi que la CNT Guinée n'a peut-être rien à voir en gros avec la CNT française.
Voilà, non, c'est la Confédération Nationale des Travailleurs Guinéens, mais malgré tout, il faut préciser que la CNT française est en relation donc avec différentes associations guinéennes qui sont aussi mobilisées en France, et qu'il y a eu, il y a maintenant 3 semaines, il y avait eu un premier communiqué du secrétariat international de la CNT dont on s'est fait l'écho ici. Voilà, donc on va continuer avec, je vous ai parlé de différents mouvements de grève, à moins que tu aies une brève.
J'ai une brève, ouais. Donc ça a pris une semaine de grève et l'obtention d'une augmentation de 75 euros au 1er janvier. Les salariés du site de Strasbourg, l'usine la plus rentable d'Europe avec une autre en Tchiki, les salariés ont voté la fin du conflit. Les dernières propositions de la direction ont fait voler en éclat l'unité syndicale affichée depuis le début du conflit. Jour et nuit, plusieurs centaines de salariés se sont relayés pour empêcher les chaînes de production de tourner. Certains ont dormi sur place. Un vote à bulletin secret a été réclamé par la CFDT et dénoncé par la CGT, qui précise que des non-grévistes y ont participé. Le projet d'annualisation des RTT a été pour l'instant mis de côté par la direction. Les jaunes et les briseurs de grève ont encore de beaux jours devant eux.
Voilà, et maintenant on va revenir sur ce que je vous ai dit, des grèves, de plusieurs grèves. Donc c'est les grèves qui font tache d'huile à Roissy, où sur la plateforme aéroportuaire de Roissy, il y a 23 employés sur 30 de l'entreprise de nettoyage GSF, donc qui travaille pour FedEx, qui sont en grève depuis 2 semaines. Donc ils réclament le respect d'un accord sur les primes de fin d'année et le 13e mois qu'ils ont signé il y a 2 ans. Selon les termes de cet accord, les salariés auraient dû toucher 600 euros fin décembre, mais en utilisant divers prétextes, dont une reprise de chantier, la nouvelle direction a tenté de dénoncer donc unilatéralement cet accord et ne leur a versé que 300 euros. Donc ils sont en grève depuis 2 semaines, on en reparlera je pense dans les semaines qui viennent, en espérant bien entendu qu'ils pourront l'emporter. Une autre grève également donc dans des salariés du nettoyage, cette fois c'est les zones hors aérogare, c'est à Ponoy, où depuis cette semaine, depuis jeudi, il y a 55 grévistes et un seul non-gréviste, donc dans cette entreprise donc de nettoyage, et qui demande là encore une augmentation de 2 euros du salaire horaire, et qui exige le versement de primes de panier et du 13e mois à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté sur le chantier. En sachant que les primes de panier sont quelque chose qui sont normalement acquises pour les salariés, mais qui on le sait, dans les entreprises de nettoyage, dans les entreprises de travaux publics, qui ne sont pas forcément mises en place dans les boîtes, et que, étant donné la difficulté aussi de se mobiliser et de faire poids, ne sont parfois pas réclamées par les salariés. Là, elles sont réclamées. Donc, on leur souhaite une bonne chance. Et une dernière, on souhaite une bonne chance et une même fin aussi heureuse qu'à Saint-Gobain. Il y a 3 usines qui étaient en grève depuis plus d'une semaine. Donc, il y avait sur le site de Saint-Gobain à Chalon-sur-Saône, à Châteaubriant, donc dans la Charente, et à Saint-Romain-le-Puy. Donc, il y a la grève qui a été levée parce qu'ils ont obtenu donc satisfaction avec une augmentation de 80 euros brut, une prime de dialogue social de 300 euros et l'étalement des heures de grève. Il fallait savoir que la grève était sur la baisse de 53% d'une prime d'intéressement. Et ce qui était aussi intéressant par rapport à ce qu'on peut défendre ici, c'est que c'était dénoncé par la CGT et par l'ensemble des salariés, c'est le fait d'être payé uniquement en prime, ce qui fait que c'est des choses qui sont pas forcément prises en compte pour la retraite et donc qui sont une variable, on va dire, aléatoire du salaire qui peuvent facilement sauter. Donc voilà, une lutte intéressante. Plus de sujet ?
Non, peut-être pas à l'agenda, mais c'est peut-être encore un peu tôt.
Donc, on n'a pas fini, c'est pour signaler donc une grève également et des mobilisations. C'est à Paris, c'est plusieurs centaines de policiers, de postiers en Île-de-France qui se sont rassemblés cette semaine devant la poste à Montparnasse, donc à l'appel de différents syndicats pour dénoncer donc c'est ce qu'on a parlé dont on a parlé ici par exemple avec Michel, c'est les nouvelles restructurations qui vont voir le jour à la poste, c'est la fermeture des centres de tri pour faire donc ce qu'on appelle des plateformes industrielles colis qui vont être faites par exemple ici à Paris et qui seront en grande banlieue et il faut savoir que ça va être la suppression de 400 emplois, il y a 400 emplois qui vont être menacés, donc comme on en avait parlé également donc sur Lyon avec la fermeture des deux centres de tri actuels, c'est-à-dire Saint-Priest et le deuxième qui est à Vaux-en-Velin qu'on appelle Lyonville, cette fermeture de ces deux centres de tri pour avoir un seul grand centre de tri qui lui aussi devrait voir la suppression de 400 à 500 emplois. Voilà. Donc là, parce que tout à l'heure, je l'ai dit, les 400 emplois menacés, c'est quand même qu'au départ, il y avait 600 personnes et on veut garder que 200 personnes. Donc on voit que là, c'est quand même un écrémage assez important, vu que c'est une division par 3 du nombre de personnel. Par rapport à Lyon, c'est 2000 salariés, à peu près, non, 1600 salariés, et on passerait à 1200 salariés. Donc il y a eu cette mobilisation à Paris, et on rappelle donc la mobilisation à l'appel de la CNT-PTT et de Sud-PTT, qui a lieu dans différents centres de tri en France. C'est une grève tous les vendredis soirs justement contre les restructurations, contre les changements au niveau des conditions de travail avec la suppression de certaines brigades et également donc dans certains lieux, je crois que c'est pas le cas sur Lyon, mais des contractuels qui eux aussi luttent et ils luttent en débrayant une heure par jour. Donc voilà, cette mobilisation se poursuit. Je pense que nos camarades viendront et nous parleraient de la suite de ces mobilisations.
C'est un facteur d'avenir aussi, la nouvelle saloperie inventée par la direction de la poste pour les postiers.
Voilà, donc on va finir cette émission. Donc on vous rappelle les rendez-vous de cette semaine. On en a parlé au début, il me semble. C'est le...
Déjà mardi, pour commencer. Oui. Mardi 6 février, donc à 18h. Place Bellecour, une manifestation donc pour le droit au logement, à l'initiative de différents syndicats, associations, partis politiques. Il y a les syndicats étudiants, FSE, UNEF, il y a Sud aussi, CNT Santé Sociale. Il y a tout ce qu'on voit habituellement, on va dire, dans ce genre de mouvement.
Voilà, et donc la deuxième information, la deuxième date peut-être importante pour nous, c'est le 8 février, cette grève et manifestation qui partira à 11h de la place Jean Masset pour rejoindre la préfecture. Et surtout, n'oublions pas le soutien à Roland Veuillet. Donc ceux qui seraient intéressés, il y a la réunion du comité de soutien qui aura lieu demain soir au local de Solidaire 10 rue du Glaisomètre. Donc c'est lundi 5 février à 19h, et sinon donc jeudi 8 février donc à la suite de la manifestation, donc un prolongement pour tous ceux qui souhaiteraient soutenir Roland Veuillet, aller jusqu'au tribunal administratif où Roland donc est en grève de la faim depuis, on le rappelle encore une fois, ça va faire maintenant 43 jours aujourd'hui, si on espère que d'ici jeudi les choses se seront levées, qu'il y aura eu un déblocage de la situation, que le gouvernement sera capable d'entendre cet appel, qu'on lèvera cette sanction injuste dont il a été victime.
Bonsoir.
Merci beaucoup Philippe d'être venu et on va vous laisser donc avec l'émission qui est suivante, qui est Boomerang.
Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h-19h, pour une nouvelle heure d'information syndicale sur fond de lutte des classes avec la bande Spartacus. D'ici là, passez là une bonne semaine.
Et on vous rappelle que ce sera le dernier dimanche parce que le jeudi 15 février, on passera donc à 20h-21h et ce sera fin la bande Spartacus le samedi soir. Et vous pourrez retrouver donc notre camarade Ben qui n'était pas là ce soir pour Radio Espoir tout à l'heure. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter toute l'émission que vous avez entendue ce soir. S'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, que vous voulez réécouter ou que vous voulez en faire part à des amis sur le site de Culture de Classe, vous pouvez trouver ça sur internet. Ça peut être intéressant aussi de le diffuser à vos contacts en leur proposant par exemple d'écouter le début de l'émission qui traite donc du cas de Roland Veuillet, qu'on rappelle qui est en grève de la faim et dont on espère que ça, la fin se rapproche, et avec bien sûr l'annulation de la sanction. Merci beaucoup, bonne semaine, ciao.